Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Très belle rentrée universitaire, Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. Aujourd'hui à la technique et à la réalisation, ma complice Tiphaine. Bonjour Tiphaine, comment allez-vous? Je sens que vous êtes en forme. Et votre serviteur, Andrés Atenza. Nous recevons aujourd'hui Madame Pascale Weiss, directrice du Centre de formation Erasme, une des grandes associations et des centres de formation dans le secteur social et médico-social. Madame Weiss est diplômée d'un master en management des établissements sanitaires sociaux, ancienne directrice d'une maison d'enfants à caractère social. Elle connaît parfaitement l'ensemble des problématiques de la protection de l'enfance. Elle a été sur le terrain avec des éducateurs, des ANP, on y reviendra, des moniteurs éducateurs, des assistants sociaux. Elle a suivi les enfants qui sont en difficulté, qui subissent des violences. Elle connaît parfaitement ce secteur et nous allons en parler. Mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé cet été. En juillet dernier, l'Assemblée nationale a examiné un projet de loi traitant de la protection de l'enfance. On peut déplorer le peu d'intérêt pour nos concitoyens sur cette question de la protection des enfants. La protection de l'enfance est compétence des départements, l'aide sociale à l'enfance, accompagnement des enfants fragiles, maltraités, incestes, banalité des carences éducatives, 300 30 000 enfants qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ce projet de loi n'a pas mis en débat ce qui me semble fondamental pour nous les professionnels, la question des compétences entre le département et l'État en matière d'agrément des établissements, le prix de journée, le budget dédié à l'enfance. J'ai l'impression que nous avons raté le débat. J'ai l'impression que les droits fondamentaux des enfants sont violés dans notre pays. Il y a, me semble-t-il, des négligences. Un enfant doit être soigné, il doit être protégé. J'ai l'impression que cette question ne pèse pas lourd dans le débat national. Nous y reviendrons, bien entendu. Madame Weiss, vous qui avez était très active dans une MEX, maison d'enfants à caractère social. Quel est votre sentiment sur cette question?
Moi, je regrette que cette loi intervienne après un reportage à la télévision. C'est-à-dire que les pouvoirs publics s'emparent de ce problème parce qu'on met en exergue sur M6, je crois que c'était, ou la 3, je ne sais plus, un sujet qui a traité alors de façon violente, parce que ce n'est pas forcément le cas de nos établissements quand même, ce que l'on a vu, c'est le pire qui pouvait exister. Alors moi, je dirais qu'aujourd'hui, la protection de l'enfance, c'est l'oublié de la société. Alors même s'il y a eu dans cette loi quelques avancées, quand même, Andrés, on peut pas, vous avez vu qu'on ne pourra plus séparer les fratries.
Ce qui est une avancée considérable.
Voilà, c'est quand même une avancée, il faut le dire. On ne pourra plus mettre de mineurs à l'hôtel. Voilà, c'est aussi une avancée, mais à côté de ça, tous les sujets d'actualité, c'est-à-dire comment faire parent, comment accompagner la société sur ce que la parentalité n'a pas été traitée. Vous l'avez dit, entre le département et l'État et les budgets qui sont de plus en plus restreints ou réduits, comment l'État, à un moment donné, aide les départements à accompagner la protection de l'enfance. Voilà, il y a encore beaucoup de sujets qui ne sont pas traités et je n'ai pas l'impression qu'on veuille les traiter. On a été aussi les oubliés pendant le Covid, quand même, on peut le rappeler, les oubliés de l'État, hein, puisqu'on a quand même continué notre activité, puisqu'on est ouvert 365 sur 365.
Enfin, et nous avons continué à accueillir des enfants pendant le confinement.
Tout à fait, sans masque, sans...
Mais sans aucune protection.
Sans aucune protection.
Et nous étions, et surtout, comme on dit, en
sans
première,
consigne de l'État, en
et
première
en deuxième
oui,
ligne.
Oui, et sans consigne de l'État quand même. Nous avons eu du mal à avoir que des consignes de l'État. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, Andrés, la protection de l'enfance, c'est l'oublié de la société pour l'instant.
Il faudra donc continuer à travailler sur ce sujet.
Et continuer aussi à faire du lobbying. Je pense que notre secteur ne sait pas faire du lobbying. C'est pour ça que nous sommes des oubliés. À l'inverse on peut dire que dans notre champ, il y a, je dis toujours, il y a les rois, les barons et les manants. Donc les rois, on va dire que c'est le sanitaire. Les barons, ce sont le médico-social, ITEP, IME, voilà. Et les manants, c'est la protection de l'enfance. Mais, et la protection sociale aussi, hein, tout ce qui est CHRS, parce que je l'oublie pas aussi.
Mais Esprit Occitanie tente de faire émerger ses oubliés. Esprit Occitanie, cette émission sentinelle d'humanité qui permet d'aborder toutes ces politiques sociales et médico-sociales. Vous êtes donc à la tête aujourd'hui d'Erasme. Oui. Très joli nom, Erasme, philosophe de la Renaissance, un grand humaniste. Comment on arrive à la tête d'une association et d'un centre de formation? Vous avez postulé, on est venu vous chercher. Comment ça se passe?
Les deux, Andrés, on est venu me chercher et j'ai postulé aussi. Alors pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de travailler, enfin de diriger un centre de formation de travail social? J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le champ du social et médico-social, hein, puisque je n'ai pas dirigé QMEX, mais on a... et je trouve, moi, qu'aujourd'hui, les compétences acquises par les dans les formations initiales ne sont pas celles attendues par les directeurs d'établissement. Voilà. On a un décalage entre la formation initiale, qui est professionnalisante, et au final, ces jeunes éducateurs qui sortent de cette formation avec un diplôme et qu'on est obligé, après, d'accompagner parce qu'ils ne peuvent pas ils ne sont pas formés sur ce qu'on attend. Donc c'est une grande question aujourd'hui pour moi, et j'ai voulu
apporter votre pierre à l'édifice, cette formation.
Même si c'est compliqué, hein, parce que effectivement, je suis pas là pour remettre en question des référentiels et des certifications, mais je suis là pour remettre en question ce que l'on fait dans les référentiels et comment, à un moment donné, on va apporter à ces futurs salariés quand même, hein, professionnels, des compétences qui sont nécessaires et je dirais aussi des postures professionnelles. Donc qui dit posture professionnelle, c'est dire aussi s'interroger sur pourquoi on vient faire ce métier, qu'est-ce qui vient faire miroir chez nous pour pouvoir... Parce qu'on ne rentre pas dans la protection de l'enfance ou dans le médico par hasard. On vient toujours chercher quelque chose, une forme de réparation aussi pour soi. Donc être au clair avec ça. Et c'est comment accompagner ces jeunes professionnels, finalement, ces jeunes futurs diplômés, à une réflexion sur déjà leur propre posture et pourquoi ils viennent faire ce métier.
Alors, combien d'étudiants aujourd'hui vous avez recruté? Parcoursup s'est achevé. Vous avez combien d'étudiants pour l'année universitaire?
220
étudiants.
Voilà, entre des moniteurs éducateurs et des éducateurs spécialisés. On vient d'ouvrir une antenne à Man. Donc Man, c'est près de Saint-Gaudens, parce que moi, je crois beaucoup aux mobilités et qu'il est très difficile aujourd'hui. Alors, c'est un métier en tension quand même. Hein. Il faut dire que d'ici 2025, je crois que c'est plus de 175 000 emplois qui vont se libérer. Donc, il va falloir recruter. Et on s'aperçoit que sur le sud du département, alors pour la Haute-Garonne, je vais parler de la Haute-Garonne, les établissements qui sont positionnés, on en a quand même beaucoup, que ce soit en protection de l'enfance, dans le champ du médico-social, voilà, et puis aussi dans l'aide à domicile, puisque la nouvelle loi induit le fait d'embaucher des moniteurs éducateurs pour accompagner, dans l'aide à domicile, pour accompagner les familles et les enfants sur des temps du mercredi, et la prise en charge d'enfants, puisque souvent c'est oublié. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont se libérer et les institutions du Saint-Gaudinois, on va dire, hein, du sud-département, n'arrivent pas à fidéliser les éducateurs SPE ou les moniteurs éducateurs puisqu'ils viennent travailler un temps. Ils sont souvent de Toulouse et quand ils trouvent un poste à Toulouse, ils partent.
Donc vous avez une politique de proximité sur le voilà. Département, vous suivez les politiques sociales, il ne faut pas laisser le sud du département... se dégrader, donc il faut créer, il faut suivre, accompagner les établissements. Man, vous travaillez également avec une association qui vous reçoit, qui vous prête des locaux, que vous partagez.
Est-ce la MFR de Man, voilà. Donc Maison Familiale Rurale, oui. Qui est installée depuis très longtemps sur le département et qui forme des niveaux infra-bac, donc plutôt AES, ils vont jusqu'au bac pro, puisqu'ils ont aussi un lycée, c'est un lycée agricole aussi quand même.
On voit bien que voilà. Tout cela, ce sont des amis, des institutions de l'économie sociale et solidaire. Vous tout êtes aussi inscrit, Erasme, dans cette grande famille de l'économie sociale et solidaire. Oui. Et je sais que vous êtes très active dans ce secteur.
Au niveau de l'UDES, tout à fait, hein, puisque je défends l'intérêt de l'économie sociale et solidaire. Et je suis aussi déléguée régionale de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui quand même sur le département, sur Occitanie, représente 12% des emplois. Donc ce n'est pas rien.
Tout à l'heure, on parlait des maisons d'enfants à caractère social et des foyers. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous pouvez nous décrire? Parce que dans le secteur, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de sigles. Une maison d'enfants à caractère social, c'est quoi? Vous recevez quel type d'enfants? Et quels sont les professionnels qui s'occupent de ces enfants?
Alors, une maison à caractère une maison d'enfants à caractère social, c'est quoi? C'est une maison d'enfants qui reçoit des enfants qui sont placés. D'accord?
Décision de qui? Du juge? Décision
judiciaire. D'accord. Ou ça peut être aussi une décision qui a été prise avec les parents et le conseil départemental, puisque le chef de file des placements d'enfants, c'est quand même le conseil départemental de l'aide sociale à l'enfance. Donc ces enfants-là, ils peuvent aller, alors ça va de 0 à 18 et 21, puisqu'en fait le conseil départemental de la Haute-Garonne, il faut le souligner, accompagne les enfants jusqu'à 21 ans.
Voilà. Il y a une garantie jeune, il y a un véritable accompagnement. Souvent, les départements sont désengagés. On peut le dire, nous, comme professionnels, que ce n'est pas du tout une page publicitaire pour le conseil départemental, mais en conscience et en responsabilité, nous pouvons dire que la politique sociale menée par le département du 31 favorable.
Oui, elle est favorable et je pense que c'est une préoccupation première quand même du département. Il faut le dire, et il y a eu des réelles avancées. Alors moi, je fais pas de politique, qu'on le dise, je veux être clair avec ça.
Mais la politique ou dans le bon sens, c'est-à-dire s'occuper des vrais sujets de la société
la cité. Voilà. Mais après, je ne suis pas là pour faire l'apogée de Monsieur Méric. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que depuis sa présidence, il y a beaucoup des avancées énormes qui ont été faites au sein de la protection de l'enfance, avec beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Et des dispositifs aussi qui permettent aux parents de devenir parents, puisqu'on ne n'est pas parents, et d'accompagner pour placer, pour que finalement les maisons à caractère social ne reçoivent que des enfants qui n'ont pas d'autre choix que d'être placés.
Et quand on parle de foyer, ça veut dire quoi? C'est un nom commun, un foyer pour enfants, un lieu de vie, ou c'est autre chose, c'est un autre dispositif?
Alors, en fait, le foyer, c'est quand même un nom commun. C'est quelque chose d'un peu de péjoratif, hein, quand on parlait de foyer, ou qu'on parle de DAS, parce qu'il y en a encore qui disent « Ah, mais ce sont les enfants de la DAS ». La DAS, ça fait plus de 25 ans, je crois que ça n'existe plus.
Oui, c'est ça qui n'existe plus, et pourtant.
Et pourtant, on dit encore les enfants de la DAS. Mais pourquoi? Parce qu'on ne communique pas sur ce qu'on fait dans les maisons d'enfants. On a longtemps caché ces maisons d'enfants dans la société. On ne mettait pas de panneaux devant parce que les enfants ne voulaient même pas dire qu'ils étaient en maison d'enfants. C'est quand même... Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en train de s'ouvrir et être une maison d'enfants, mais c'est plutôt une richesse quoi, pour la société. Parce que ce qu'on fait pour ces enfants, c'est qu'on veut faire de ces enfants des futurs citoyens. C'est ça quand même. Hein, des citoyens qui s'insèrent, qui trouvent un travail, qui ne seront pas... Enfin, on espère qu'ils ne seront pas au RSA ou qu'ils pourront s'intégrer dans la société, ce que finalement leurs parents... Des parents péchés, je dirais. On ne peut pas parler de mauvais parents. Il ne faut pas...
Mais c'est des parents qui ont des réelles difficultés.
C'est des parents qui ont des carences.
Et qu'il faut accompagner également.
Voilà, mais c'est des parents qui ont des carences. Moi, je suis mère. Quand mes enfants sont nés, ce n'était pas acquis d'être mère. Je l'ai appris au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que j'ai eu la transmission de ma grand-mère. J'ai eu des parents, de la famille, qui m'a accompagnée dans le fait d'être mère. Et même en étant dans ce milieu, on fait tous des erreurs. Voilà. Ces parents-là, souvent, ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des richesses familiales qui vont faire, ou des ressources familiales qui vont faire qu'ils vont pouvoir s'insérer en tant que parents. Donc ça, c'est notre métier. Et c'est, moi, je dirais, c'est un devoir de la société. Voilà. Dans la prévention, aujourd'hui, l'État français, enfin en France, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'est pas dans la prévention. Voilà. On met des pansements. Au lieu de se dire, on va, comme en Chine par exemple, on pourrait comparer la Chine, les médecins chinois qui à un moment donné, vous essayez de faire que vous ne tombiez pas malade. Voilà. Nous, on soigne, mais on ne sait pas
C'est toujours curatif.
C'est ça.
C'était peu la prévention. Et au bout du bout, le curatif coûte toujours plus cher que la prévention. Pourtant, nous le disons constamment dans tous les colloques, dans toutes les réunions, dans toutes nos sociétés savantes. Revenons donc à Erasme, 200 étudiants, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Vous êtes à Mann, ce département, mais je sais également que vous êtes à Montauban.
Oui, aussi, et dans le cas des mobilités.
Toujours cette mobilité, c'est-à-dire immerger, irriguer l'ensemble, pourrait-on dire, de l'Occitanie ex-Midi-Pyrénées. Est-ce que vous avez d'autres projets pour aller dans d'autres territoires, implanter le drapeau Erasme?
Oui, alors aujourd'hui, on est à Amman avec les moniteurs éducateurs. Le projet, c'est que l'année prochaine, on puisse ouvrir une section éducateur spécialisé.
D'accord.
Voilà. Et après, on verra. On verra en fonction de... Il faut que la région nous suive, il faut qu'il y ait des besoins, parce que ce n'est pas la peine d'ouvrir non plus des antennes, parce que les antennes, il faut quand même avoir des étudiants. Aujourd'hui, le département est assez couvert parce qu'il y a d'autres centres de formation qui aussi ont ouvert des antennes. Voilà.
Le conseil régional, qui est le chef de file pour la formation des institutions, vous suit, vous finance en partie. Comment fonctionne, vous pouvez nous dire concrètement comment fonctionne le financement d'une institution comme la vôtre?
Alors là aussi, on va dire, et on va, je vais... On va saluer l'engagement du conseil régional, là, je peux le dire aussi, puisque étant au niveau national et pouvant échanger avec mes collègues, le conseil régional d'Occitanie apporte un soutien au centre de formation, puisqu'on est financé sur les places 100% région. C'est des places qui sont financées par la région. Quand on a évoqué ce sujet avec le conseil régional, effectivement, on avait fait un petit déjeuner avec l'ensemble des employeurs du Saint-Gaudinois et qui avait dit qu'il n'arrivait pas à trouver et à fidéliser. Même le département dit la même chose. Donc, ils nous ont suivis. Ce que je peux dire, c'est que les budgets qu'on a n'évoluent pas. Mais de notre côté, ils ne s'effondrent pas non plus, puisqu'il y a des conseils régionaux quand même qui ont fait des coupes franches dans les dotations, d'autres centres de formation. Donc, on est plutôt privilégié, il faut le dire aussi.
Dans la région occitanie, quand même. Semble exemplaire en tout cas pour ces métiers. Ce sont des métiers d'ailleurs non délocalisables. Ce sont des métiers qui sont sur le terrain. C'est-à-dire ces personnes-là ne peuvent pas partir. Ces personnes-là peuvent irriguer dans une économie, dans une région, dans un village. Et d'ailleurs, il y a une étude économique. Parfois, un EHPAD en milieu rural peut être le plus grand employeur du canton.
Mais
je pense qu'il faut le dire.
Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, 12% de l'emploi de l'ESS, sur la région, c'est énorme.
C'est énorme, 12%. C'est les chiffres confirmés par statistiques et plusieurs...
De l'économie sociale et solidaire, bien sûr. Puis aujourd'hui, quand même, les employeurs, vous le savez, Andrés, des associations de 2000 salariés. Vous en dirigez une, donc vous pouvez le savoir. On a quand même des grosses associations qui représentent un fort pouvoir d'emploi sur la région.
Alors, pour produire de la pédagogie, et vous dites, vous êtes de cette famille de la pédagogie active, de l'éducation nouvelle, on va y
éducation
revenir.
Populaire.
Et éducation populaire également, un mouvement. Combien de professionnels, professeurs, formateurs, enseignants, chercheurs pour encadrer ces 200 étudiants?
Alors, il y a une vingtaine de formateurs, enseignants, chercheurs et ingénieurs pédagogiques. Parce qu'on est à un tournant de la formation en travail social. Il faut qu'on le prenne, ce tournant, parce qu'aujourd'hui, l'économie est importante, mais ça a été pareil dans le social et le médico-social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toujours été financé par des budgets sans se dire est-ce que ça va durer. On allait voir la région, on disait, on a dépensé plus, est-ce que vous pouvez combler le manque? Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut qu'on soit bons et les meilleurs. Et il faut surtout qu'on arrive à attirer des étudiants parce que notre secteur n'est pas attractif. Notre secteur n'est pas attractif parce que c'est dur, parce qu'on travaille le week-end, parce qu'on n'est pas si bien payé que ça. Enfin, Andrés, on le sait tous quand même, c'est une mobilisation.
Il y a des études de la DARES, donc ministère du Travail. Il y a des études des économistes confirmés qui disent qu'on est proche dans le social, le médico-social, des salaires non décents.
C'est ça.
Voire des métiers non décents. C'est dramatique, alors que le social, peut-être considéré comme un investissement pour la nation.
Une richesse, je dirais.
Oui.
Au-delà de l'investissement, c'est une richesse. Un travailleur social est une richesse pour la nation. Je pense que, comme les oubliés de la protection de l'enfance, l'État ne prend pas en compte le fait que le travailleur social peut changer quelque chose. C'est un engagement citoyen d'être travailleur social, quand même. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner des personnes à la précarité et pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent faire quelque chose de leur vie. Ça, je pense que personne n'en a conscience. Ou nous, quand même, travailleurs sociaux, mais dans la société, qui nous reçoit, qui en prend conscience?
Les thématiques les plus importantes dans votre association, avec réflexion, avec la gouvernance, vos administrateurs, administratrices, vos professionnels, vous travaillez donc les pédagogies dites actives, oui. Éducation populaire, éducation nouvelle, vous vous réclamez également pédagogiquement, pourrait-on dire, didactiquement, un peu l'école de Freinet, Célestin Freinet, Maria Montessori. Comment c'est arrivé? Quelle est l'histoire d'Erasme et comment elle a été créée, cette école? Avez-vous quelques dates qui marquent l'émergence de cette institution?
Alors, l'Erasme vient des CMEA.
D'accord. Donc là, c'est vraiment l'éducation populaire.
C'est l'éducation populaire, les méthodes d'éducation active, basées aussi sur l'animation, enfin, voilà. Donc, elle a été créée en 2004 avec... c'est Jean-François Vier, à l'époque, qui est toujours président, hein, qui crée cette association.
Qui a été un professionnel du médico-social, voilà. qui a géré une belle association.
Il a géré l'ARCEA, la PEAG, enfin bon, voilà. il a quand même été... C'est un connaisseur. Alors, on va dire que... qu'est-ce que c'est l'éducation populaire? Par essence, c'est un mouvement de transformation sociale et non d'animation occupationnelle. Elle s'inscrit dans une dimension politique, quand même, l'éducation populaire.
Voilà. On pense et on a la conviction qu'on peut transformer le social, qu'on peut transformer la société. C'est cela qui est important. C'est-à-dire qu'il y a une action, on donne du pouvoir d'agir, et on en reparlera, Madame Weiss, c'est-à-dire donner à des citoyens, à des personnes que nous formons, la possibilité d'être de véritables citoyens qui vont transformer la société. C'est cela qui est le plus important.
C'est ça, l'éducation populaire.
Voilà.
Voilà, donc Erasme, depuis donc là, 2004,
sa création.
Depuis sa création, bon, même avant, œuvrait à ça, avec des méthodes actives, beaucoup de collectifs aussi, hein, le travail sur le collectif, parce qu'il n'y a pas que l'individuel, le collectif, c'est comment on travaille ça. Donc il y a des méthodes pédagogiques à Erasme qui sont axées là-dessus. Et moi, je pense, je pense que ça... Comment dire? L'éducation populaire, elle a du bon et du moins bon, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les CMEA se veulent, enfin, Erasme se veut des CMEA et qu'on est en train aussi de travailler l'éducation active, mais le pouvoir d'agir.
C'est important de revenir sur le pouvoir d'agir parce qu'il y a beaucoup d'articles, oui. Il y a beaucoup de contributions intellectuelles, pourrait-on dire des psychologues également. Et cette idée de pouvoir d'agir, si on la traduit dans l'histoire de la France, et un philosophe qui a marqué, me semble-t-il, l'histoire, Troisième République, Léon Bourgeois, philosophe républicain, radical, Léon Bourgeois, l'émancipation. Et l'émancipation est partie au Canada, et ça nous est revenu du Canada, souvent à la pointe également, nos chers collègues et amis québécois, sur le pouvoir d'agir, le empowerment.
L'impuissancement, André.
L'impuissancement. Et nous, on peut le dire en français, nous pouvons donner aux personnes que nous suivons, aux personnes que nous accompagnons, cet impuissancement, se donner cette capacité à se prendre en charge.
Oui, alors...
C'est cela, l'éducation.
C'est exactement ça. Le pouvoir d'agir, c'est être recherché avec la personne ce qui est important pour elle et lui donner les moyens, l'accompagner à pouvoir... réaliser ce qui est important pour elle. Si je pouvais donner un... Alors, il y a Yann Bossuet qui dit le pouvoir d'agir, c'est s'affranchir.
Oui.
Contrairement à la psychothérapie qui serait de s'adapter. Lui, il dit
Il faut s'affranchir.
C'est s'affranchir, voilà. Donc si je pouvais donner un exemple peut-être qui parlerait à tout le monde, alors ça serait par exemple d'apprendre à pêcher plutôt que de donner le poisson, mais un exemple concret que m'a rapporté une formatrice d'Erasme, une assistante sociale fait une formation sur le pouvoir d'agir, et elle accompagne depuis quelques années une personne au RSA qui n'arrive pas à s'emparer de sa vie, qui n'arrive pas à décoller ou partir dans un projet. Et quand elle fait cette formation sur le pouvoir d'agir, elle repense à cette personne et elle dit ce qui est important pour lui, ce qu'il dit tout le temps, c'est je veux retourner sur la tombe de ma mère. Je veux retourner sur la tombe de ma mère. Et l'assistante sociale, qui elle, ce qui la préoccupe, c'est qu'il trouve un travail et qu'il puisse s'insérer dans la société, bon, elle met ça de côté. Quand elle fait la formation sur le pouvoir d'agir, elle dit mais ce qu'il me demande et ce qui est important pour lui, c'est « je veux retourner sur la tombe de ma mère ». Elle met tous les moyens, c'était pas à côté, elle met tous les moyens en œuvre pour accompagner cette personne sur la tombe de sa mère. Quand il a été sur la tombe de sa mère, après cet événement-là, elle a pu travailler avec lui et il a pu s'insérer.
Voilà. Il était encombré par quelque chose qui était dans ses tripes, qu'il ne pouvait pas avancer. Voilà. Cet acte, il y a eu une étincelle. Faire de la pédagogie, c'est aussi allumer un feu. C'est ça qui est intéressant, allumer un feu. Et donc, à partir de ce moment-là, le jeune
Mais l'important ce qui est important dans le pouvoir d'agir, c'est d'aller comprendre ce qui est primordial pour l'autre. Travailler ça. À partir de là, effectivement, tout peut basculer. Et c'est mettre les moyens autour, parce que si finalement, l'important pour une personne, c'est d'avoir un logement, ben, il va falloir trouver au sein de la... Alors, c'est un peu systémique. Il va falloir trouver aussi tous les moyens pour que la personne puisse avoir un logement. Il va falloir l'accompagner là-dedans, mais pas faire à sa place. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner à faire.
Dans le social et médico-social, il y a bien sûr moniteurs, éducateurs. Ce sont des formations que vous dispensez. Mais dans le médico-social et social, il y a aussi d'autres catégories de personnel. Il y a des psychologues, mais vous ne formez pas les psychologues. Le psychologue, c'est l'université, mais le psychologue travaille avec vous. Il y a aussi des animateurs. Les animateurs qui sont donc des personnes qui travaillent dans les CMA, comme vous avez dit, des colonies de vacances, etc. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une filiation, est-ce qu'il y a un parcours? C'est-à-dire on commence par l'animation, colonie de vacances, et puis on découvre qu'on a envie d'être moniteur éducateur, et puis ensuite il y a une filière, on a envie d'être éducateur spécialisé. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça, ou tout d'un coup, on se réveille un matin, on se voit dans la glace, et on dit j'ai envie d'être... éducateur spécialisé.
Alors, on va dire que quand même, il y a beaucoup de jeunes qui viennent sur Parcoursup ou qui font ces études, qui ont fait le BAFA.
D'accord.
Déjà, quand même.
Donc, je dis, il y a une communauté de pensée, il y a une filiation.
On ne vient jamais par hasard dans notre secteur. Ou alors, quand on fait ça, on n'y reste pas. On n'y reste pas. Il faut quand même avoir... c'est dur, le travail social. Il faut travailler avec l'autre, il faut s'encombrer aussi des problèmes de l'autre. Ce n'est pas facile à faire, il faut arriver à gérer ça. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, on ne peut pas se dire, quand on a eu des enfants en grande difficulté ou même des personnes qui sont à la rue, ça ne nous laisse pas indifférents. Enfin, on est encombré par ça. Un enfant qui est en grande difficulté, le soir, vous pensez à lui. Vous ne pouvez pas couper avec ça.
Donc, c'est une conscience qui s'adresse à une autre conscience.
C'est ça.
C'est une humanité qui s'adresse à une autre humanité. Pascal, c'est encore l'été.
Oui.
Il y a encore des festivals. Moi, je vous propose d'aller au Grand Café avec les croquants et nous allons faire la fête. Nous y allons.
C'est un grand, grand, grand café qu'on a là ce soir. Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous aviez bu, quelle soif indomptable. Le beau visage fardé vous disait bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup d'effets au grand café.
Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café.
Par terre on avait mis de l'azur de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installé devant la grande table, vous invitiez des ducs des connétables. Quand on vous présenta soudain l'addition, vous avez déclaré: moi j'ai peint rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au bon café.
C'est vous chasseurs, c'est vous le commis d'instaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manieurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les vies commencent à vous bouffer.
Toujours avec Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Aujourd'hui, mon invité Pascal Weiss, et nous parlons de cette belle école Erasme, école de l'éducation populaire, école des pédagogies actives, école qui forme des professionnels pour le secteur social et médico-social. Nous avons parlé du pouvoir d'agir, nous avons parlé... bien entendu, de toutes ces pédagogies qui donnent l'émancipation aux personnes que nous accompagnons. Mais je sais aussi que dans votre formation, vous formez en formation continue à la médiation animale.
Médiation animale et médiation canine.
Canine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé? Parce que là, il y a un mouvement qui est assez récent. Puis tous les pays, pourrait-on dire, et toutes les institutions ne pratiquent pas la médiation animale. Donc il y a quelque chose d'intéressant, et peut-être alors, faut-il s'arrêter.
Alors, on a un lien depuis la Fondation Sommer, donc qui est quand même une fondation reconnue sur tout ce qui est défense de l'animal et sur les projets animaux, a travaillé en concert avec Erasme depuis très longtemps. Et cette médiation canine a été portée par Erasme il y a à peu près, ça a commencé il y a 3 ans. On a d'ailleurs réussi à faire une certification. Il y a beaucoup de certifications en équithérapie, mais la médiation canine, aujourd'hui, on est les seuls en France à avoir cette certification, c'est-à-dire que ce diplôme, enfin, on va pas dire que c'est un diplôme, c'est un certificat professionnel, est reconnu, et du coup, les salariés peuvent mobiliser leur CPF, ce qui est quand même pas rien.
Alors, le CPF, c'est le compte de formation.
Personnel de formation. Voilà. La médiation canine, donc, c'est une formation qui est de 210 heures sur Erasme. On sait que l'animal est un bon médiateur avec les personnes âgées. Ça a commencé en maison de retraite, les formations avec les animaux. Les enfants aussi, mais souvent autour du cheval. Et en fait, c'est une formation qui est reconnue par l'ARS, qui dit c'est une des médiations finalement non médicamenteuses qui peut apaiser, accompagner les enfants avec des troubles psychologiques ou pas d'ailleurs, parce que il est vrai qu'un animal, moi je l'ai rencontré avec des enfants psychotiques, très encombrés on va dire, qui pouvaient avoir de la violence et qui finalement avec un chien. C'est du prendre soin.
J'ai lu un article en disant que, y compris les personnes qui font de l'attention, c'est quelque chose qui peut mal se passer, que parfois caresser un animal a fait baisser l'attention. Hein, c'est quand même assez intéressant de
oui,
de
tout à fait. Ça.
Et donc dans les domaines, on dit dans des domaines y compris judiciaires, peut-être un juge, etc., peut utiliser, on sait qu'il y a des expériences
qui a été
où
avec
le juge utilise le chien qui est à côté ou l'animal pour que le dialogue avec l'enfant qui a des difficultés ou les familles en puissent s'apaiser. C'est assez intéressant de voir cela. Quoi.
L'animal fait tiers.
D'accord.
Donc, il permet finalement à l'enfant de se déplacer. Et prendre soin d'un animal, c'est aussi prendre soin de soi.
De soi.
Voilà. Quand on commence à pouvoir se poser, accompagner l'animal, le caresser, prendre en compte ses besoins, ça veut dire qu'aussi on se prend en compte soi-même. C'est pour ça que la médiation canine, c'est une richesse aussi, parce que j'en parle, je suis fan de cette formation. Hein, voilà. Et on va la déployer d'ailleurs avec Lille. C'est-à-dire que l'Institut de Lille, l'RTS de Lille, va déployer de son côté notre formation pour avoir à Lille et à Toulouse, parce que je pense qu'il faut diffuser.
Hein. Au maximum.
Voilà, l'essentiel c'est de diffuser, c'est pas de garder quand on a des richesses en formation. C'est pas de les garder pour soi.
Et les professionnels viennent régulièrement aujourd'hui en formation continue. Oui. Vous avez combien de salariés qui se forment à ces nouvelles techniques?
Alors, c'est pas beaucoup, parce c'est que pas beaucoup aujourd'hui. C'est 30 reste... personnes ou 30 personnes.
30 ou 40 que... personnes par an.
Voilà.
Non, c'est
voilà.
Ça.
Mais si on la déploie sur Lille, ça va diffuser sur la France entière, puisqu'il pourrait y avoir Lille, Toulouse, ça peut être intéressant. Voilà.
Les associations toulousaines participent à cette formation et vous envoient
des professionnels. Alors en plus cette année c'est sur le fonds mutualisé de branche, donc c'est-à-dire que c'est pris en charge par l'OPCO, ce qui est pas rien. Donc on a quand même des salariés qui viennent. Après c'est vrai que pour l'instant on n'a peut-être pas assez communiqué sur cette formation, mais quand on la connaît, on la connaît.
Je sais que vous êtes une professionnelle où chaque fois vos collaborateurs cherchent à vous joindre, mais dans cette émission, nous demanderons à vos collaborateurs qui écoutent cette émission qu'ils attendent et vous répondront tout à l'heure au téléphone. Cela arrive comme ça. Nous sommes sur Esprit Occitanie et nous parlons d'Erasme avec Madame Pascal Weiss. Également, vous avez une activité forte d'apprentissage, vous êtes CFA.
On est CFA et cette année, on a...
Centre de formation par apprenti.
Et
ça, c'est quand même important, l'apprentissage pour les jeunes.
Alors, moi, je trouve que l'apprentissage, quand on parlait tout à l'heure des formations initiales, la formation initiale, ce que je reprocherais, c'est que finalement, nos institutions, alors en tant que directrice, je peux en parler, on reçoit des stagiaires. Les stagiaires, on doit les former. Mais finalement... Est-ce que dans nos institutions, on a mis en place des tuteurs de stage ou des référents de stage qui vont accompagner ces jeunes dans leur professionnalisation? Pas forcément en dresse. On prend des stagiaires parce qu'ils ont besoin de stage, donc on va les prendre, mais on ne va pas les accompagner en tant que professionnels. L'apprentissage, il y a quelque chose de différent. C'est que le jeune apprenti va être salarié de son association et il aura un tuteur de stage. Puisque un tuteur de stage ou un maître d'apprentissage ne prend en charge au plus deux salariés, deux apprentis.
Donc il y a un véritable compagnonnage.
Compagnonnage.
On est à côté de l'impétrant, du jeune qui va se former pour lui donner les bons gestes, lui apprendre les bons gestes.
Lui apprendre les bons gestes.
La bonne posture.
La bonne posture, l'accompagner et surtout... on n'est plus dans une relation de pair à pair, parce que souvent quand on fait des stages, et ce que je regrette, il y a peut-être des jeunes qui sortent avec un diplôme alors qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. Mais parce qu'il est très difficile pour un éducateur qui a été en formation de dire « Ah mais non, lui, il ne correspond pas ». Ça, c'est très difficile de se juger entre pairs quand même.
En fait, vous êtes en train de dire que parfois le diplôme ne fait pas l'ensemble de la compétence alors qu'il y a... En effet, du point de vue théorique, on maîtrise l'ensemble du référentiel.
C'est ça.
Donc, il y a une théorie et une pratique, une véritable praxis du métier.
C'est ça, tout à fait, Andrés. Là, ce qu'on veut faire, on est en train de faire quelque chose d'un peu innovant, et avec, on va citer l'Andras, mais on est avec mon collègue Jean-Yves Boulet, directeur général de l'IFRAS, on fait une formation en apprentissage pour l'Andras de 50 apprentis.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Parce que c'est osé, on prend des risques, les associations et les centres de formation prennent des risques. C'est quoi? C'est l'innovation. Il faut oser.
Il faut oser. Alors après, il y a des aides aussi de l'État qui viennent accompagner l'embauche de ces apprentis. Et je crois aussi que vous avez réfléchi. Alors l'ANRAS a réfléchi à sa GPEC. Hein. Vous savez que d'ici
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Voilà. Donc vous savez que l'ANRAS d'ici 3 ans va employer à peu près 150. Il va y avoir 150 départs à la retraite.
Voilà. Si la pyramide des âges dans nos institutions, on n'est pas les seuls. Non. Mais en effet, on observe. Et vous l'avez dit au cours de votre intervention, qu'il va y avoir dans le secteur social, médico-social, pyramide des âges, assez pourrait-on dire dégradée, beaucoup de départs à la retraite, et il va falloir remplacer tous ces professionnels.
Alors sur cette promo, on a décidé avec Jean-Yves Boulet de faire une recherche-action.
D'accord.
Et de se dire, entre les apprentis que nous allons employer, enfin que vous allez employer, et qu'on va accompagner tout au long de leur formation, et la formation initiale, est-ce qu'il y aura différentes employabilités à la fin? Et puis, il y a quelque chose d'innovant qu'on fait sur cette promotion, c'est-à-dire qu'il va y avoir un fil rouge qui va travailler, donc on travaille avec Claire Badi, une intervenante vacataire, qui va travailler sur l'intelligence communicationnelle, c'est-à-dire apprendre à se connaître, savoir qui on est, ce qu'on veut, où on va pour mieux accompagner les autres.
Et là, ce sont les compétences douces.
C'est ça.
Vous travaillez les compétences douces. Tout ne passe pas par, comme on dit, les compétences professionnelles. Il faut être aguerri techniquement, mais il y a des choses à côté.
Il y a des choses qui sont primordiales.
Savoir-être, c'est primordial dans le métier.
Voilà, qui sont primordiales et qu'on oublie de travailler. Donc, cette promotion va nous servir aussi de champ d'expérimentation, mais plutôt dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on fait une recherche-action pour, si cela fonctionne, pour peut-être diffuser au niveau national.
Et dupliquer à d'autres centres.
Voilà. Ou pas, mais en tout cas, on pourra diffuser la recherche action et se dire où on sera déçu. Mais on y croit.
Recherche action, c'est nécessaire de contribuer. Je suis souvent critique, mais je vous le livre comme ça, au dépoté, comme on dit. On ne pense pas assez dans le social, au médico-social. Il faut de la recherche-action, il faut des contributeurs, des enseignants-chercheurs. Et souvent, en exprimant cela, j'essuie quelques critiques en disant « je suis en train de changer de métier » ou « je suis en train d'enterrer l'ancien métier ». Comment peut-on balayer ces critiques pour dire qu'il est nécessaire de contribuer fortement et de penser le champ disciplinaire du social?
Ben là, il y a une question aujourd'hui qui se pose au niveau national. Là, je ne parlerai pas que des races, mais c'est le tournant qui est en train de prendre la formation des travailleurs sociaux. Avec la diplomation, la double diplomation et les liens avec l'université qui sont nécessaires aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que le diplôme d'éducateur spécialisé est au niveau licence et puis a été reconnu niveau 6 aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. La professionnalisation, on va dire que le champ du travailleur social, le formateur, était souvent issu du terrain. Et que ses apports, il était diplômé. Après, il allait à la fac faire un diplôme.
Donc, formation, pourrait-on dire, empirique.
Empirique. Aujourd'hui, quand on parle de faire entrer dans nos secteurs, et pour ma part, Erasme a trois chercheurs et enseignants-chercheurs, c'est vécu comme on va nous enlever quelque chose. Mais non. On ne va pas vous enlever quelque chose. On va vous apporter une façon différente de penser. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de faire mourir notre secteur, de penser différemment? Donc ce changement de paradigme est très compliqué. C'est comme quand on parle d'ingénierie pédagogique. Ah mais non, ce n'est pas notre métier. Mais bien sûr que c'est notre métier. Un ingénieur pédagogique, il est là pour organiser la formation. On ne peut pas être sur tous les champs. Et effectivement, il y a beaucoup de réticences, il y a beaucoup de levées de boucliers.
Mais vous amenez ça, me semble-t-il, avec talent. Ce n'est pas du tout pour vous flatter, parce qu'on n'est pas là pour se flatter. Mais la connaissance que vous avez du terrain, votre crédibilité du terrain, sont peut-être des atouts pour transformer votre institution et l'amener à bon port.
Je l'espère. C'était le projet. Après, on ne sait pas ce que sera demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'espère qu'avec Erasme, on va pouvoir. On est une petite association. On est un des plus petits centres de formation de Midi-Pyrénées. Mais ça nous donne une agilité.
Hein? petit, rapide, et agile, et vous souhaitez le rester parce qu'il y aura des grandes manœuvres dans le monde. On a observé, par exemple, des grandes manœuvres dans les universités. Il fallait, en effet, fusionner les universités. Il y a eu des grandes manœuvres dans les grandes écoles françaises. Est-ce qu'il y aura des grandes manœuvres dans le secteur social et médico-social en ce qui concerne les centres de formation, peut-être?
Peut-être, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé sur d'autres régions. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, on n'a pas des diplômes d'études supérieures, on n'a pas de master, hein, on ne fait pas, voilà.
Mais des partenariats avec l'université sont prévus, vous allez...
Alors, on est en train d'essayer, on travaille, enfin, on a tout un groupe dans le conseil d'administration qui travaille sur des diplômes universitaires et peut-être un diplôme en travail social, puisqu'aujourd'hui, ça n'existe pas, finalement, le diplôme.
Et est-ce que nos amis universitaires sont ouverts? Parce qu'il peut y arriver parfois qu'il y ait un peu de fermeture chez nos amis universitaires, j'en suis un, et parfois... Le corps social se raidit ou se crispe. Bon, on va tenter de supprimer les clivages.
On va tenter. On travaille avec le CNAM quand même sur ce sujet. Voilà. Il y a un manifeste qui est sorti dernièrement du CNAM sur ça, sur le devenir du travail social et le fait qu'il n'y ait pas de diplôme finalement en travail social.
Ça peut être une avancée considérable dans le secteur.
Tout à fait.
La reconnaissance, c'est vrai, il faut en effet saluer le travail des collègues du CNAM
qui ont
envoyé cela au ministère, bien évidemment. On revient à l'apprentissage par l'action collective. Et je sais aussi que votre école Erasme a une dimension internationale.
Oui.
C'est important parce que tout le monde n'utilise pas ce levier de l'international. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'international? D'abord, vous les envoyez où?
Alors,
L'Europe, en Afrique, en Amérique latine?
On a un partenariat avec Berlin. Donc, ce partenariat, les Berlinois viennent chez nous. Nous allons à Berlin faire des stages à mobilité. Il y a des mobilités collectives pour des échanges de pratiques et il y a des mobilités individuelles aussi. Il y en a qui partent pour des stages de 3 mois. Donc il y a la Hongrie et la Roumanie avec qui on est aussi en partenariat. Et on a aussi, qu'est-ce que ça fait les mobilités? Pourquoi les mobilités? Pour l'amélioration des compétences transverses, des prises de connaissances d'autres formes d'organisation du travail social, puisque par exemple si on prend l'Allemagne, c'est pas du tout organisé comme en France. En Allemagne, avant de placer un enfant, on va, par exemple, essayer de voir s'il n'y a pas des ressources, même si elles ne sont pas familiales. Ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être... Voilà. Alors qu'en France, dès qu'on pense danger, on pense place blanche.
D'accord.
Voilà. La loi prévoit ça aujourd'hui, la nouvelle loi d'ailleurs, qu'on puisse aussi travailler sur des ressources.
C'est-à-dire trouver des ressources au plus proche de l'intérêt de l'enfant. C'est vrai que le danger, l'écarter du danger... mais quand même, non pas trop le déplacer, en tout cas trop loin.
Voilà.
Placement ne doit pas être la première des règles.
Les centres d'accueil d'urgence à Berlin, ils restent au plus une semaine. Après, les enfants, on trouve une solution. Ce n'est pas du tout le cas chez nous.
Du coup, le travail social n'est pas le même.
Ce n'est pas le même. Bon, et puis, la politique n'est pas la même. Il y a les landers. Voilà.
D'accord.
Donc, tout ça, c'est aussi comment aller chercher ailleurs des compétences qui ne sont pas en France et avoir une vision politique différente.
Et ils doivent produire un mémoire, un rapport d'étonnement.
Alors, il y a un rapport.
Ce sont des choses comme on est à l'école, c'est noté, il y a un coefficient. Comme ça se passe concrètement?
Je ne suis pas sûre qu'il y ait une note, mais ça vient, ça vient.
Peut-être qu'il ne faut pas tout noter.
Non, voilà. C'est une compétence supplémentaire. Quand vous partez quand même en mobilité, déjà sur votre CV... Rien que sur le CV, ça veut dire que vous avez aussi une compétence supplémentaire. Alors, pour moi, c'est important.
La langue de travail, c'est quoi? C'est le français, c'est l'anglais, c'est l'allemand? Quand il y a des mobilités, c'est plutôt l'anglais?
C'est l'anglais, oui. Et le français aussi, parce que les Berlinois, les formateurs berlinois parlent très bien le français.
Très bien le français. Ouais. Donc il y a une filiation quand même assez intéressante. Et l'ensemble des 200 étudiants...
Non.
Au cours de l'institution, partent à l'étranger? Non.
Alors, ce n'est pas sur les moniteurs éducateurs, c'est vraiment sur les éducateurs spécialisés.
Voilà.
Et c'est sur la première année, en général.
Le retour d'expérience positive de la part des étudiants?
Très positif.
C'est évalué positivement?
Très positif.
Content de cette expérience. Ça
content
marche.
De cette expérience et demandeur de cette expérience.
D'accord.
Voilà.
Vous et êtes le... financé, vous rentrez dans le cadre d'Erasmus alors.
Erasmus et l'OFAGE. Donc nous avons des financements pour une vingtaine d'élèves par an.
Voilà. Et l'expérience, c'est quoi? 2 mois, 3 mois, pour être plus précis.
Alors,
dans cette
sur
opération.
Les, tout ce qui est. Alors, si c'est une mobilité individuelle, c'est 3 mois. Si c'est des mobilités collectives, c'est des échanges d'une semaine, 15 jours. Donc, Berlin via Toulouse, et nous allons à Berlin avec. Les formateurs les accompagnent d'ailleurs, si c'est des mobilités collectives. Hein. Si c'est des mobilités individuelles, non.
Comme nous sommes dans l'international, je vous propose d'aller sur les steppes de la Mongolie. Et écouter quelque chose d'assez original qu'on n'écoute pas assez, d'autres musiques qui viennent d'ailleurs, en parlant de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, où des musiciens sont massacrés, tués. Eh bien, en Mongolie, il y a des chanteurs qui imitent le vent des steppes. Je vous propose cela. Esprit Occitanie, toujours avec Pascale Weiss, directrice de l'école de formation Erasme, moniteur, éducateur, apprentissage, mobilité internationale et projets internationaux. Il faut qu'on ouvre, bien entendu, ce dossier des projets internationaux que vous allez mener pour cette année universitaire 2021-2022.
Alors, je vais quand même parler d'un projet international qui a été mené... qui a été fini cette année, qui a duré 3 ans, c'est le projet FILIA, qui est un projet justement qui rejoint la protection de l'enfance, hein, puisque ça a été un projet avec des jeunes et des professionnels de l'aide sociale à l'enfance et des enseignants-chercheurs qui ont participé à une recherche-action collaborative pour réinventer ensemble des outils de formation du travail social. C'est-à-dire que c'est à destination des travailleurs sociaux.
Et vous avez produit, je crois, une mallette pédagogique.
Une mallette pédagogique.
Un kit pédagogique.
Tout à fait.
Oui, allez-y.
Et on a... Et il faut vraiment, vraiment communiquer sur ce projet parce que c'est quelque chose d'innovant. Hein, voilà. Et c'est surtout l'approche des APC hein, qui a été faite par le Canadien Yann Bossé. Et il s'agit de mettre ensemble tous les acteurs pour réfléchir ensemble à des pistes d'amélioration. Ça a été, le projet il est basé sur une étude officielle en France qui a révélé qu'un nombre élevé, c'est malheureusement, d'enfants pris en charge par l'aide sociale en France finissent à la rue. 36% des SDAF de 18 à 25 ans ont été pris en charge par l'aide sociale. C'est quand même une catastrophe, même pour nous,
donc
travailleurs sociaux.
Donc, il s'est passé quelque chose. On peut dire qu'il y a eu un ratage, ou il y a un ratage, malgré les moyens déployés, des difficultés et les sorties peuvent être...
Mais parce que d'abord, il y a aussi des fois des sorties sèches, quand même.
Parce qu'il y a des sorties sèches, voilà. Comme on dit dans le métier, c'est-à-dire sans aucune solution.
Sans aucune solution, et pas que, parce que des fois aussi, il y a la maturité de l'enfant qui fait que... Ben, il n'est pas prêt à s'insérer et qu'il finit, il n'arrive pas à travailler, son cerveau est encombré, comme on dirait, et il n'arrive pas à s'insérer socialement, hein, il finit à la rue. Et ce qu'on peut espérer, c'est que tout ce qu'on a fait pour lui, à un moment donné, vienne faire étincelle. Et pour ma part, j'ai vu des enfants qui partaient à la rue et que je recroisais quelques années après et qui me disaient, finalement... Ce passage par la rue était nécessaire, enfin nécessaire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, a été un passage qui m'a fait chuter, mais tout ce que j'ai acquis finalement est revenu en boomerang et ça m'a permis de me redresser.
Alors c'est vrai que souvent dans notre secteur, nous voyons des choses qui ne marchent pas, oui. Peut-être qu'on s'autoflagelle parce que c'est des métiers difficiles et pourtant il y a aussi beaucoup, beaucoup de réussites. Cette année, obtention des CAP avec des jeunes, des bacs pro, meilleur ouvrier, meilleur apprenti de France dans la région, ces jeunes de l'ASE. Je crois qu'aussi, il faut le dire, quoi,
hein,
qu'il faut souvent, et on ne le fait peut-être pas assez dans le métier, il faut se congratuler du travail social qui est fait par l'ensemble des professionnels.
On sème. Voilà. On sème. Et des fois, en fait, notre métier, on va dire que pour moi, on sème les graines. Et on n'a pas forcément, on sème les graines, on voit la pousse, mais on ne voit pas la récolte.
Voilà. C'est un métier de longue haleine. Hein.
C'est ça.
Vous courez un marathon, Madame Weiss.
Et oui, et puis quand moi je vois des jeunes dans la rue qui m'interpellent et qui me disent, qui sont fiers de me dire ce qu'ils sont devenus, ça me met toujours la larme à l'œil. Bon, je voulais juste finir, André, oui. Sur Filia. Donc c'est un projet, parce que c'est quand même une mallette gratuite, hein, il faut le dire. Donc, et c'est un projet qui a été en collaboration avec la Belgique, le Portugal, la Roumanie. Le contenu de formation sert à accompagner à la réussite et à l'insertion professionnelle, on en parle, des enfants les plus vulnérables. Ça aide aussi à soutenir, à préserver et développer les différents réseaux familiales, amicales, professionnels. Donc vous pouvez le trouver sur le site web filia.org.
C'est-à-dire qu'on peut le télécharger.
Tout à
si
fait,
on vous écrit, vous pouvez l'envoyer. Pour revenir, parce qu'on a, en effet, au terme de notre émission, et merci Pascal pour votre enthousiasme.
J'en ai deux autres.
Ah, vous avez d'autres projets qui vont
oui.
continuer.
Donc on a surtout un projet qu'on est en train de finaliser, qui sera finalisé en début 2022. Donc c'est une création de 8 modules de formation avec l'Espagne en e-learning. Hein. Et donc nous, Erasme, on a choisi de travailler très concrètement sur l'articulation nécessaire entre la transition écologique et le travail social.
Et parce alors, que... les Espagnols, c'est quelle université, quelle région? C'est les Catalans, c'est les Aragonais?
C'est les Catalans. Vous savez,
c'est les Catalans. Vous allez travailler les Catalans, voilà. Ils sont en avance, les Catalans, sur ce dossier. Voilà, la langue de travail sera le catalan, l'occitan, le français.
Le français et l'espagnol.
Et l'espagnol, voilà.
Donc, voilà. Et aussi, il y a un projet qui est porté par la Chambre des métiers de l'artisanat d'Occitanie. Donc, il faut en parler quand même. C'est à venir, qui vise à un meilleur accueil et accompagnement des mineurs non accompagnés sur le territoire pyrénéen côté français et espagnol. Parce qu'on s'aperçoit que c'est des lieux où, dans les mobilités, on a besoin d'emploi. Donc, il y a beaucoup de jeunes mineurs non accompagnés qui arrivent cette frontière, hein, qui se forment, qui deviennent des très bons ouvriers et des meilleurs ouvriers de France peut-être, ou de la région, et qui finalement ne restent pas dans les territoires. Donc c'est comment aussi accompagner ces jeunes qui se sont formés, qui ont appris un savoir, à rester sur les territoires. Donc ça s'appelle Avenir, et c'est en cours de réalisation.
Vous avez parlé des MNA, ces fameux enfants non accompagnés, qui sont notamment des enfants de l'exil, des enfants de l'immigration. Nous consacrerons bien évidemment une émission, c'est repris, il y a des filières, Il y a des enfants qui sont maltraités. On voit bien qu'il y a des enfants qui sont notamment des garçons. Les filles ne passent pas. Il y a vraie problématique. On ne sait pas où sont les filles, mais on s'en doute qu'ils doivent être peut-être dans les réseaux, bien entendu,
de prostitution,
comme de prostitution ou autre. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire dans le social. Pascal Weiss, merci d'avoir accepté mon invitation à Esprit Occitanie. Nous allons diffuser cela dans tous les réseaux. Nous allons inviter nos auditeurs à rentrer, à comprendre notre métier et peut-être, très modestement, Esprit Occitanie et Sentinelle d'Humanité, bien allumera ce feu du social et médico-social. Nous ne serons plus les oubliés. Merci beaucoup infiniment pour votre participation.
Merci Andrés.